bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, on va regarder 10 façons efficaces de trouver des clients quand on est freelance. J'ai échangé cette semaine avec Léa. Léa, c'est une auditrice fidèle de ce podcast. Merci beaucoup Léa, je te remercie de ta fidélité. Alors Léa a démarré en fait une activité de freelance en parallèle à ses études. Elle fait des études en communication à l'ECS et elle m'a demandé des conseils pour trouver des clients. Alors comme Léa, vous êtes certainement nombreux à vous poser cette question. Plus de 600 000 auto-entreprises se sont créées depuis 2020, depuis le confinement. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui se lance en indépendant. Et développer son portefeuille client, bah, c'est l'un des challenges les plus importants, si ce n'est le plus important lorsqu'on débute. Alors ça m'a donné l'idée aujourd'hui de faire cet épisode pour vous donner des pistes pour développer votre portefeuille de clients. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à prendre un instant, un tout petit instant pour noter et évaluer ce podcast. C'est très important en fait, pourquoi ? Parce que les algorithmes des plateformes de podcast boostent les épisodes en fonction du nombre de notes et de commentaires qui sont reçus. Alors si vous écoutez juste ce podcast, là, c'est génial et je vous remercie vraiment de le faire. Merci à tous, hein, vraiment pour votre fidélité à l'empreinte digitale. Le petit coup de pouce que vous pouvez donner à ce podcast, c'est d'aller sur Apple Podcast, si vous écoutez par exemple sur cette plateforme, vous pouvez laisser 5 étoiles et vous pouvez laisser un commentaire. Alors c'est ce qu'a fait Farida cette semaine, qui m'a laissé un super message en disant « Une pépite ce podcast, clair et net, agréable à écouter en plus, merci Farida ». Merci beaucoup Farida, merci à toi pour ce commentaire qui me fait vraiment super plaisir. Et puis il y a Ethan aussi qui a laissé un commentaire, merci Ethan, qui me dit « Excellent, les épisodes de ce podcast apportent plein de valeurs, top !» Merci Ethan, à toi aussi. Alors je vous invite, allez sur, si vous êtes sur Apple Podcast, laissez un 5 étoiles et un commentaire, j'aurai le plaisir de vous citer dans le prochain épisode. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez aussi laisser un 5 étoiles, hein, c'est les deux plateformes qui vous permettent de le faire. Voilà, ce sera super sympa et vous avez compris que ça boostera la viralité et la notoriété de l'empreinte digitale, ce qui sera évidemment un super coup de pouce. Merci les amis. Alors on va regarder les 10 façons de trouver des clients en freelance. Premièrement, pourquoi c'est difficile déjà de trouver des clients en freelance ? Bah oui, c'est déjà la première question. C'est vrai que quand on débute une activité de travailleur indépendant, on démarre souvent avec un portefeuille de clients vide. Ou dans le meilleur des cas, on a un ou deux premiers contrats avec le cercle rapproché, on va dire, la famille, les amis, les connaissances, etc. Donc au début, on n'a pas beaucoup d'activités et c'est impératif de se faire connaître rapidement parce qu'on a besoin de développer du chiffre d'affaires, on a besoin de trésorerie. Alors c'est pas facile, parce que tous les secteurs sont concurrentiels, je l'ai dit, hein, plus de 600 créations d'auto-entreprises depuis le premier confinement. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, hein, par exemple dans les domaines digitaux, hein, clairement, comme Léa, si vous faites de la création graphique, du web marketing, des ads par exemple, ou du conseil en stratégie social media, ces secteurs-là sont super concurrentiels, la concurrence elle est âpre, et vous allez devoir pas mal batailler les amis pour décrocher de nouveaux contrats. Alors, comment on fait pour trouver des clients quand on est freelance ? Bah, il y a 3 façons de faire de la prospection commerciale lorsqu'on est indépendant. La première méthode, c'est l'approche classique. Ça consiste à aller rencontrer ses prospects dans le monde réel. Alors, c'est une méthode qui existe depuis la nuit des temps, hein, mais elle est toujours d'actualité, hein, elle a fait ses preuves, elle reste efficace. Dans cette approche, vous allez participer à des rencontres, vous allez assister à des événements où se trouvent vos futurs clients potentiels. Alors ça peut être intimidant au début, hein, si vous n'avez pas la fibre commerciale, si vous avez peu d'expérience, mais c'est une super occasion de parler avec vos prospects et de connaître leurs besoins. La deuxième méthode, c'est de faire connaître vos services, mais à distance. Voilà. En fait, vous utilisez les méthodes commerciales classiques, mais cette fois, vous le faites via le web et les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, il y a pas mal de canaux que vous pouvez exploiter sans avoir à vous déplacer. Par exemple, vous avez des plateformes de freelancing comme Malte, Crème de la Crème, 404 Works ou autres. Ce sont des plateformes que vous connaissez probablement. Et elles se sont fortement développées parce que depuis la crise du Covid, bien les entreprises elles n'hésitent plus aujourd'hui à solliciter des prestataires externes pour des tâches à réaliser à distance et aussi à les externaliser. Alors, exploiter ces canaux comme les plateformes de freelancing, c'est une façon de transformer une contrainte, celle du Covid, en opportunité pour développer votre business. La troisième méthode, c'est un peu le contre-pied, ça consiste en fait à ne pas faire de prospection. Dans cette approche, vous ne contactez personne, mais vous faites en sorte que ce soit les clients qui viennent directement à vous. Alors par expérience, c'est la méthode la plus efficace pour développer votre portefeuille sur le moyen long terme. Et puis surtout, ça vous évite aussi de perdre du temps à démarcher. Vous vous concentrez uniquement sur ce que vous aimez faire. Si vous êtes ancien freelance, c'est parce que vous aimez quelque chose. Vous vous concentrez uniquement là-dessus et vous ne perdez pas de temps avec la prospection. Après tout, c'est pour ça que vous êtes lancé en freelance, non ? C'est pas pour faire de la prospection commerciale. Alors, on va prendre ces trois approches. Donc, première approche classique, deuxième approche classique mais à distance, hein, et la troisième approche, ben, on ne fait pas de prospection. On va reprendre ces trois axes et donc on va regarder ensemble 10 façons pratiques de trouver de nouveaux clients. Alors, l'approche terrain pour rencontrer vos prospects. Cette première approche, elle consiste donc à aller vers les autres en mode IRL, in real life, dans la vie réelle. Alors, il y a différentes façons possibles de rencontrer de cette façon-là vos futurs clients. Premièrement, conseil numéro 1, visitez les salons et les congrès professionnels. Chaque année, il y en a beaucoup, hein, il y en a des centaines, des milliers qui sont organisés dans toute la France, Paris, région, en province. Si vous êtes en province, il y en a beaucoup aussi. Moi, je suis en province et dans ma région, il y en a tout le temps, hein. Ces endroits, ces salons et congrès, ce sont de véritables viviers à clients potentiels pour votre activité. Alors, il y a deux façons de faire. Dans un premier temps, vous n'avez peut-être pas des budgets hein, pour être exposant, mais c'est pas grave. Vous pouvez aller quand même dans les salons et congrès de votre secteur d'expertise. Ça va vous permettre en fait de voir vos concurrents, de voir comment ils se présentent sur le stand et voir comment ils communiquent. Déjà, vous aurez pas mal d'informations. Ensuite, ne vous limitez pas aux salons de votre secteur. Allez aussi dans les autres congrès d'autres thématiques. Il y en a sur tous les secteurs. Il y a le salon du mariage, le salon de la maison, le salon des animaux domestiques. Il y a plein de salons tout le temps. Allez dans ces endroits et allez rencontrer les professionnels qui sont présents, qui exposent. Souvent, ce sont des PME, ce sont des petites structures. Et souvent, vous le savez, elles consacrent en fait peu d'attention à leur communication. Vous allez dans un salon des animaux domestiques, vous allez voir que souvent ce sont des petites structures et il n'y a pas beaucoup d'argent, de budget dans la com. Alors échangez avec eux, discutez, présentez vos services et vous verrez qu'ils auront certainement besoin de votre expertise. Ce sera peut-être l'occasion de décrocher des contrats. Alors méthode classique 1, les salons et les congrès professionnels. Méthode classique 2, participez à des afterworks. Regardez quels sont les événements qui sont organisés dans votre ville, dans votre région, en soirée par exemple. Là encore, ça va être l'occasion de rencontrer pas mal de professionnels. Alors, vous allez voir, au fil du temps, que dans ces événements, on retrouve toujours un peu le même cercle de personnes à chaque fois. Vous allez finalement vous rendre compte que ce sont toujours un petit peu les mêmes qu'on côtoie. Alors, c'est une sorte d'entre-soi qui peut sembler un peu limitatif, mais ne pensez pas que vous allez uniquement dans ces rencontres pour toucher les clients. Vous allez aussi pour faire du networking. Et au fil du temps, au fil des rencontres, peut-être que vous retrouvez toujours souvent les mêmes personnes, mais vous allez développer des relations, peut-être des amitiés. En tout cas, vous allez vous construire un réseau solide avec des personnes voilà, qui sont des professionnels comme vous. Et ces personnes penseront peut-être à vous le jour où ils recevront une proposition qui ne sera pas dans leur domaine de compétences. Si par exemple vous faites du SEO et que c'est un créa graphique qui est un client qui lui fait cette demande, est-ce que tu sais comment booster ma présence sur Google ? Si tout va bien, votre ami vous donnera le contact. Voilà. Alors ça vous permettra de vous faire un réseau, et puis ça vous permettra aussi de vous faire des connaissances professionnelles et de ne pas vous retrouver tout seul, parce que c'est vrai, quand on commence en freelance aussi, c'est un des défis importants à relever, c'est de ne pas se retrouver finalement tout seul dans son appartement ou dans son bureau à travailler derrière un écran. Donc méthode classique numéro 3 à présent, rejoignez des associations professionnelles. Voilà, si vous aimez networker, si vous aimez réseauter, vous pouvez rejoindre ces associations pro. Il y en a avec les chambres de commerce, les associations patronales, etc. Les associations des fois d'experts comptables ou autres. Voilà, elles organisent souvent des déjeuners, hein, c'est souvent des déjeuners, ou des rencontres avec des conférences. Et ça vous permet bien sûr d'échanger des cartes de visite. Alors, c'est l'occasion de côtoyer d'autres interlocuteurs que vous ne verrez pas sur les salons, sur les congrès ou dans les afterwork. Et ça vous permet de vous faire connaître à une plus grande échelle. Alors, attention toutefois, parce que ces événements, ils sont souvent fréquentés par des dirigeants de plutôt moyenne grande entreprise. Alors, si vous êtes au début de votre activité, vous êtes encore un peu junior peut-être dans ce que vous faites, vous n'avez peut-être pas encore trop d'expérience, je ne vous recommande pas forcément de privilégier cet axe de développement. Commencez plutôt par des clients de plus faciles, de taille plus petite. Ils seront déjà plus faciles à convaincre, ils seront moins exigeants et ça va vous permettre de vous faire la main avant ensuite de pouvoir chercher des missions plus importantes. Mais vous pouvez vous faire la main déjà avec des plus petits clients. Ensuite, vous pourrez aller rejoindre peut-être ces associations. Mais il ne faut pas les négliger quand même, ça peut être des axes de développement importants. Démarchage commercial, approche classique, quatrième conseil, allez travailler dans un espace de coworking. Si vous n'avez pas de bureau fixe et que vous exercez depuis chez vous, pourquoi ne pas vous rendre un à deux jours par semaine dans un espace de coworking ? Dans cet endroit, vous allez rencontrer qui ? Eh bien, des travailleurs indépendants, souvent comme vous, hein, qui veulent voir du monde, qui ne veulent pas rester seuls. Alors, c'est une façon de développer votre réseau commercial et puis peut-être qu'ils auront aussi besoin de vos services. Mais aussi et surtout, vous allez faire la connaissance de porteurs de projets, peut-être de start-upers, auxquels vous allez peut-être proposer, là encore, vos services. Au début d'une aventure entrepreneuriale, les start-upers surtout, hein, ils se consacrent surtout sur la création du produit. Voilà, création répond aux besoins. Alors la communication, souvent, elle est laissée de côté. C'est une erreur, bien sûr, parce qu'un bon produit, un excellent produit mal vendu, ce sera toujours un échec. Hein. Donc, expliquez-leur pourquoi c'est important de communiquer, et montrez-leur ce que vous faites, et comment vous pouvez les aider. Et puis, si vos arguments sont convaincants, les amis, bah, c'est une proposition, normalement, qu'ils ne pourront pas refuser. Donc, les coworkings sont aussi de super viviers pour faire du business. Alors ça, c'est l'approche classique traditionnelle sur le terrain IRL in real life. La deuxième approche, c'est l'approche outbound marketing. C'est une autre approche pour toucher vos prospects. Là, vous n'allez pas vers eux dans la vraie vie, vous allez le faire à présent à distance. Voilà. Alors, c'est le conseil numéro 5. Cinquième façon de trouver ses clients. Cette fois-ci, donc, c'est l'approche inbound marketing à distance. Démarchez vos clients via les réseaux sociaux. Vous pouvez contacter des prospects en direct via les plateformes social media. Dans la première approche classique, on va vers les gens hein, dans le monde réel. Ici, approche outbound marketing, on va vers les gens, mais dans le monde virtuel, on va dire à distance. Les réseaux sociaux, vous le savez, hein, c'est des super canaux de prospection. Hein, ils sont vraiment adaptés, hein, quel que soit votre secteur d'activité. Vous êtes dans la com, dans la formation, dans le développement informatique, je ne sais. Vous pouvez tout à fait exploiter les réseaux sociaux. Exemple, vous êtes un graphiste freelance, vous pouvez regarder les comptes Instagram des commerces de votre ville ou de votre quartier. Si vous voyez que le logo, que la charte graphique, c'est pas terrible, entre nous c'est souvent le cas, je crois que vous le savez, adressez-leur un petit DM, vous vous présentez, vous partagez votre portfolio et vous proposez tout simplement vos services. Ça peut vous permettre d'avoir quelques retours. Alors honnêtement, en toute transparence, cette méthode elle prend surtout beaucoup de temps et souvent elle apporte peu de résultats. Mais malgré tout, tentez-la. Si vous le faites avec finesse et intelligence, si vous le faites avec la chaleur humaine hein, dont on a besoin sur les réseaux sociaux pour pouvoir convaincre, si vous le faites bien, si vous le faites efficacement, ça peut vous faire de bons retours. En tous les cas, les amis, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner, vous aurez peut-être de très bons retours. Donc, pourquoi pas, tentez le coup. Conseil numéro 6, proposez vos services sur les plateformes de freelancing. Voilà, depuis plusieurs années à présent, hein, il y a pas mal de plateformes qui sont lancées. Alors, c'est quoi le principe? Vous les connaissez, hein, elles mettent en relation en fait des entreprises avec des travailleurs indépendants. Une entreprise a un besoin, un projet, elle le place sur une plateforme de freelance et puis vous avez les freelances derrière qui répondent en disant « moi ça m'intéresse ». Alors, d'un côté, les entreprises elles ont accès à un grand nombre de compétences et de talents, de l'autre, les freelances évitent de passer du temps à prospecter, c'est un échange gagnant-gagnant. Alors toutefois les amis, c'est pas non plus le conte de fées, hein. Trouver des clients sur ces plateformes, c'est difficile, ça reste difficile. Pourquoi ? Parce que premièrement, ça prend du temps de renseigner son profil sur ces plateformes. Hein. Si vous le faites vraiment complètement, ça prend du temps. Il faut aussi répondre aux appels d'offres. Hein. Regardez les nouvelles offres, il faut y répondre, c'est chronophage. Et puis vous n'êtes pas tout seul, vous avez compris, 600 000 créations d'entreprises depuis le premier confinement, donc la concurrence est rude, c'est pas facile de se démarquer, surtout qu'en face de vous, vous aurez peut-être des freelances qui sont déjà bien en place, bien expérimentés. Quoi. Et puis enfin, le prix, hein, c'est souvent un critère déterminant pour décrocher un contrat sur ces plateformes, on tire souvent les prix vers le bas, donc ça va avoir un impact sur votre rentabilité, vous n'allez pas vendre au prix forcément que vous voudriez, parce qu'en face de vous, il y a des personnes qui vont être capables de brader un petit peu la prestation pour avoir le contrat. Alors, c'est pas tout rose, mais c'est pas tout noir non plus, hein, ces plateformes sont quand même à prioriser, hein, c'est quand même le B.A.B.A., ça peut être un canal d'acquisition majeur hein, pour développer votre activité, donc quand même, placez-les en priorité. Conseil numéro 7, on est toujours dans cette approche outbound marketing, on va vers les autres, on est en ligne à présent, bah faites de la pub, hein. La pub les amis n'est pas morte. Hein. Aujourd'hui on est à l'ère des réseaux sociaux, on est tous sur Instagram, TikTok, Facebook, mais la pub ça reste un canal super efficace de business. Si vous pensez l'inverse, dites-vous un truc, hein. Si Google et Facebook sont des cash machines, telle cash machine, c'est que la pub ça marche. Hein. Si la pub ça marchait pas, ne vous inquiétez pas, les entreprises n'en feraient plus. Hein. Donc c'est que ça reste efficace. Et si vous en avez déjà fait dans un précédent post, vous savez que ces publicités, elles ont quand même un retour sur investissement qui est quand même pas mal du tout, quoi. Alors, exploitez-les hein, pour votre activité, essayez de lancer une campagne de pub. Hein. Alors, vous la ciblez bien, il faut bien la construire. Au début, bien sûr, choisissez un petit budget, hein, mettez pas trop d'argent au départ, vous faites des tests, hein, puis vous voyez le résultat tout simplement. Vous faites notamment des tests AB, hein, même si vous avez un petit budget, ne lancez pas une seule pub, hein, vous en lancez deux ou trois, vous voyez laquelle performe le plus, et puis celle qui a le meilleur retour, vous mettez votre budget dessus. Petite erreur aussi à éviter, qu'on voit parfois, ne redirigez pas les internautes sur la page d'accueil de votre site. Hein, parce que la personne a cliqué, elle est intéressée, il faut tout de suite qu'elle convertisse, quoi. Alors faites plutôt une page de vente bien marketée, comme ça vous allez pouvoir convertir le prospect rapidement. Alors récemment, j'ai fait plusieurs podcasts et on a eu plusieurs articles d'experts sur l'empreinte digitale à propos des pubs en ligne. Si vous allez sur le site l'empreintedigitale.com qui héberge cet épisode, le lien est tout en bas hein, de ce podcast, cet épisode de podcast, vous allez retomber sur les liens. Donc, c'était 5 raisons de faire de la pub avec Google Ads, mesurer l'efficacité de vos campagnes Google Ads et comment calculer simplement le retour sur investissement, le ROAS, d'une campagne de pub en ligne. Alors, ça c'était les deux premières approches. Donc, approche plutôt classique. La première, c'est l'approche terrain. On va vers les autres dans le monde réel. Donc, on visite les salons, les congrès pro, on participe à des afterworks, on rejoint des associations professionnelles, et puis pourquoi pas aller faire un petit tour dans un coworking. L'approche outbound marketing, là on va aller chercher les prospects en ligne, donc démarchage directement via les réseaux sociaux, ou via les plateformes de freelance, ou alors on fait de la pub en ligne. La troisième approche, le contre-pied, c'est pas du tout une approche classique celle-ci, c'est l'inverse. On va attirer les prospects vers nous, on fait pas de prospection. C'est une approche qu'on appelle inbound marketing. Dans cette approche, c'est plus vous qui allez vers les clients, c'est les clients qui viennent directement vers vous. Ça, c'est magique. Ça, c'est ce dont tout le monde rêve. Alors, comment faire cela de façon efficace? C'est très simple, en fait. Vous allez vous concentrer sur de la création de contenu. Vous allez partager votre expertise en ligne. Vous allez publier des articles sur votre blog, sur des réseaux sociaux, sur une chaîne YouTube ou autre. Comme ça, vous allez atteindre des internautes en quête de réponses dans vos thématiques. Et je vous donne un exemple. Vous créez des articles de blog, vous avez une chaîne YouTube en expliquant comment avoir un bon logo, comment faire une bonne brochure commerciale, comment toucher des clients grâce à la com, etc. Les personnes qui vont se poser cette question-là, ils vont aller chercher dans Google ou sur YouTube. Et du coup, ils vont trouver vos contenus, hop, ils vont venir directement à vous. C'est pas vous qui prospectez en disant « Salut, t'as besoin d'un logo, je fais des jolis logos ». Vous savez bien que 9 fois et demi sur 10, vous aurez un gentil refus. Là, c'est les gens qui viennent sur Google en disant « j'aimerais des conseils pour faire un logo ». S'ils viennent sur votre contenu, vous avez compris que dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus facile à convertir parce que le prospect sera bien chaud, quoi. Il a un besoin et vous êtes capable d'y répondre. Alors, cette approche inbound marketing, pour bien la mettre en place, vous pouvez utiliser plusieurs canaux. Et ce seront les conseils donc 8, 9 et 10. Conseil numéro 8. Utilisez, là encore, les réseaux sociaux pour partager du contenu. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube et tout ça, c'est des super outils, les amis, pour toucher des audiences très très larges. Hein. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, on ne pouvait pas, avec si peu de moyens, juste un téléphone, toucher 1000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est tout à fait à la portée de tous. Alors, profitez de la puissance de ces plateformes pour à la fois créer des contenus, les diffuser hein, sur ces plateformes, des contenus en lien avec votre thématique et qui répondent aux besoins de vos clients, et vous allez être rapidement identifié comme un expert. Alors surtout, le plus important, c'est apporter de la valeur hein, dans vos contenus. Hein. Ne faites pas ce que tout le monde fait, sinon ça n'apporte rien. Donc démarquez-vous, apportez de la valeur, donnez vos conseils gratuitement, même si c'est des trucs un peu qui sont votre domaine d'expertise, donnez vos conseils gratuitement, partagez votre savoir-faire généreusement, hein. Allez-y, ouvrez les vannes, vous allez en récolter les fruits. C'est ce qu'on appelle le « give to gate », le « donner pour recevoir ». Si vos contenus sont excellents, pertinents, ils vont certainement déboucher sur de belles opportunités commerciales. Je vous le dis par expérience. Conseil suivant, numéro 9, on est toujours dans cette stratégie d'inbound marketing, lancez votre média, votre propre média. Ça, c'est une étape importante, même indispensable, si vous voulez être identifié comme une référence dans votre secteur d'activité. Vous pouvez par exemple lancer un blog. Hein. Si vous aimez écrire, vous pouvez lancer un blog. Vous allez publier régulièrement du contenu qui répond aux besoins de votre cible. Des internautes qui vont être à la recherche de conseils vont tomber sur vous, vont arriver sur votre site. S'ils apprécient ce que vous faites, ben voilà, ils pourront vous contacter pour vous demander un devis pour votre prestation. Alors vous n'êtes peut-être pas à l'aise à l'écrit, donc dans ces cas-là, il faut plutôt lancer une chaîne YouTube par exemple. Pareil, même démarche, hein, avec du contenu, mais cette fois en vidéo. Si vos vidéos répondent aux questions de vos personas, votre chaîne va vous apporter directement du trafic qualifié. La vidéo aujourd'hui, c'est super bien indexé. N'oubliez pas que YouTube appartient à Google, donc l'indexation est excellente. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, si vous n'êtes pas à l'aise non plus avec la caméra, vous ne voulez pas vous montrer, bah, y a une solution, les amis. Lancez votre podcast. 12 millions de Français écoutent régulièrement des podcasts. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, hein, vous êtes en train d'en écouter. C'est un canal super puissant, les amis, pour toucher une audience qualitative. Et l'avantage, les amis, c'est que ce canal est encore peu exploité. Hein. Alors, allez-y, hein, c'est un canal qui est encore un petit peu vierge, hein, dans certains secteurs d'activité, et c'est super puissant pour toucher une belle audience. Et j'en parle encore par expérience. Alors lancez son média, créez des contenus, ça va vous apporter une forte visibilité. Et si votre contenu est de qualité, pertinent et vous le faites régulièrement, vous êtes assidu dans ce que vous faites et que vous le faites bien, ça va vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Bien sûr, ça demande de la rigueur et c'est chronophage, c'est vrai. Et si vous manquez de temps, vraiment, il y a un plan B. Commencez par TikTok ou les formats YouTube Short. Ça prend pas tellement longtemps. Un TikTok, c'est des petites vidéos de moins d'une minute. Un YouTube Short aussi, hein, c'est très court. C'est des contenus qui sont extrêmement viraux et qui peuvent vraiment booster votre visibilité. Alors, dernier conseil, les amis, numéro 10. Je finis par peut-être le plus important. Travaillez votre personal branding. Voilà. Si vous êtes travailleur indépendant, c'est super essentiel de travailler votre image. Vous êtes une personne physique, c'est clair. Mais vous devez communiquer autour de votre personne comme le ferait une marque comme Apple, Nike ou Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle le personal branding ou le marketing de soi. Quand vous travaillez votre marque personnelle, ça va vous permettre de développer une image forte qui va faire de vous un expert, vraiment un expert presque incontournable de votre domaine. Alors c'est clair, le personal branding ça prend du temps, là encore faut régulièrement créer des contenus de qualité, faut les diffuser, faut construire hein, cette image brique par brique, mais le retour sur investissement les amis à moyen long terme il est sans commune mesure avec les autres techniques. Je vais vous partager mon expérience, comment je fais mon personal branding, c'est 12 heures environ par semaine minimum à travailler dessus. La partie la plus importante, c'est l'épisode de podcast, hein, chaque semaine pour l'empreinte digitale. Allez, ça me prend entre 6 à 8 heures pour un podcast de 1500 à 3000 mots. Voilà. Alors, ça inclut la recherche du sujet, la rédaction, l'article. Hein, voilà, je le rédige. Hein, vous voyez que si vous allez sur l'empreintedigitale.com, vous avez tout le wording hein, des épisodes. L'enregistrement ensuite, montage, diffusion sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, par exemple. Tout ça, ça prend environ... pour moi, entre 6 et 8 heures par semaine environ. Ensuite, il y a la création de contenu pour les réseaux sociaux. Hein. Je crée aussi des contenus pour les réseaux sociaux, notamment je décline certaines parties des podcasts. Donc là, c'est à peu près 4 à 5 heures par semaine. Et puis ensuite, j'interagis aussi avec d'autres contenus d'autres personnes pour animer mon réseau pro. Et là, c'est à peu près une demi-heure par jour. Donc ça fait à peu près 3 heures par semaine. Alors tout ça, ça prend du temps, c'est clair. Mais les amis, je peux vous dire par expérience que c'est de loin et même de très loin mon meilleur investissement en termes de ROI. Je reçois régulièrement des demandes de collaboration. J'ai même le privilège de pouvoir en refuser. J'ai un agenda bien rempli sans faire aucune prospection. Je ne prospecte jamais. Je ne passe pas une minute par semaine ou par mois à prospecter. Alors si on voulait résumer, hein, quelle méthode de prospection privilégiée pour un freelance ? Vous avez compris vers quelle idée je m'orienterai, mais malgré tout, elles ont tous des avantages et des inconvénients, même le personal branding. La première méthode, la classique, méthode terrain, celle-ci, elle peut être intimidante. Hein. Si vous êtes quelqu'un de réservé, si vous n'avez pas la fibre commerciale, aller dans des afterworks, rencontrer des personnes sur les salons pro, aller démarcher, donner une carte, ça peut vite relever de l'ordre du défi. Hein. Mais faites-le parce que, progressivement, vous allez gagner en assurance, vous allez affiner votre argumentaire parce que vous allez échanger avec des personnes, vous allez voir vraiment quel est le besoin, ça va vous permettre d'affiner hein, votre argumentaire et puis donc d'être plus efficace. Autre contrainte bah, de cette méthode-là, c'est que ça oblige à se déplacer régulièrement, c'est du temps, il faut participer à des rencontres, c'est souvent en soirée, des fois même le week-end, ça peut être embêtant, mais là encore, si vous faites cet effort, à l'issue des échanges, vous allez vous créer un bon réseau, vous allez mieux connaître votre persona et vous aurez une mine d'informations qui va vous permettre de bien affiner votre offre. Alors vous voyez que vous n'aurez pas perdu votre temps. Donc la méthode terrain classique, ne l'écartez pas, elle est quand même super efficace, surtout en début d'activité. Et puis si vous êtes naturellement un commercial, évidemment vous allez y aller tranquillement. Alors la deuxième approche, outbound marketing, hein, c'est l'approche classique mais à distance, voilà. Alors ça vous évite de rencontrer les personnes en direct, ou ça peut être parfois un petit peu embêtant pour certains, mais là encore, hein, cette méthode, elle va vous exiger un investissement commercial qui va être vachement important. Hein. Vous allez devoir relancer régulièrement vos prospects, vous allez avoir peu de retours gratifiants, vous allez voir que vous envoyez beaucoup de demandes et très peu de retours. Donc ça peut donner l'impression qu'on passe pour un vendeur d'aspirateur, quoi. Et ça, c'est jamais très très valorisant. Néanmoins, les amis, toutes ces différentes actions, que ce soit être sur des plateformes de freelance, faire de la pub, etc., c'est un énorme avantage, c'est que c'est actionnable rapidement. Et ça peut vous permettre de générer du trafic, du chiffre d'affaires sans attendre. Alors toutefois, hein, c'est pas toujours super rentable. Hein. La pub, bah, ça a un coût, évidemment. Donc il faut le déduire hein, de votre bénéfice. Les tarifs sur les plateformes de freelance sont souvent tirés vers le bas, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est pas forcément l'approche qui est la plus rentable, mais ça reste une approche commerciale à ne pas négliger. Elle fonctionne, elle est loin d'être parfaite, mais malgré tout, vous aurez quand même des retours et notamment du chiffre d'affaires qui se dégage un petit peu tout seul. Donc vous l'avez compris, la troisième méthode après l'approche terrain et l'approche outbound marketing, c'est l'approche inbound marketing, c'est celle qui va vous éviter de consacrer du temps à la prospection commerciale. Alors elle n'a pas que des avantages, mais elle a quand même pas mal d'atouts. Ces désavantages, c'est quoi? C'est que c'est de loin la plus chronophage. C'est largement de loin la plus chronophage. Ça va vous demander un investissement de temps très très important. Lancer un média, hein, ça va vous obliger à créer du contenu régulièrement et du contenu à valeur ajoutée. Vous ne pouvez pas faire que du snacking content, des petits articles. Vous allez devoir faire des contenus avec du fond, avec de la valeur. Et ça va vous prendre facilement 5, 6, 8, peut-être 10 heures par semaine au minimum. Alors sur cette méthode-là, il ne faut pas attendre un retour sur investissement immédiat, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est la méthode du temps long. La méthode de l'inbound marketing, c'est le marathon, ça prend du temps. Mais c'est de loin et de très très loin la meilleure stratégie. Parce que quand vous développez votre marque perso, vous allez apparaître aux yeux du public comme un expert, comme la personne peut-être la plus qualifiée pour répondre aux besoins de votre prospect. Et ça, les amis, vous imaginez la valeur que ça peut avoir quand on est en train de négocier une affaire. Pour ma part, à un titre d'expérience, je crée du contenu depuis plusieurs années à présent, ça fait 7 ou 8 ans. Je suis présent tous les jours de façon active sur les réseaux sociaux, vous me connaissez peut-être sur LinkedIn, sur Twitter ou à travers le podcast hein, chaque semaine. Et de loin, tout ça, ça a été mon meilleur investissement. La création de contenu, la présence sur les réseaux sociaux et le podcast. Alors c'est vrai, hein, je suis obligé de bloquer de pas mal d'heures dans mon agenda hein, pour créer des contenus. Il faut les diffuser, il faut interagir sur les réseaux sociaux, ça prend du temps, beaucoup de temps. Mais ça me permet aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, j'ai un carnet de commandes qui est plein toute l'année et je consacre vraiment, en toute honnêteté, pas une minute à la prospection. Alors, je ne suis pas un superman, pas du tout, loin de là. Si j'ai réussi à le faire, c'est que c'est largement à votre portée, vraiment. Il suffit juste d'avoir de l'organisation, de la technique aussi hein, sur les aspects digitaux, mais honnêtement, c'est à la portée de tous. Alors je fais cet article cette semaine parce que j'ai échangé avec Léa qui m'a contacté, mais en même temps je dois dire que ça tombe très bien parce que je suis en train de préparer une formation où justement je veux vous partager la méthode que j'ai mise en place pour développer mon personal branding. Je veux en fait vous la partager pour vous donner mes bonnes astuces, mes bonnes pratiques depuis 7 ou 8 ans à présent. Qu'est-ce qui n'a pas marché et surtout qu'est-ce qui a marché pour que vous puissiez à votre tour développer une carrière de freelance rentable. Si vous l'appliquez, tout simplement, bah, ça va vous éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire au début, ça va vous faire gagner pas mal de temps et vous allez éviter de consacrer plusieurs heures par semaine à de la prospection client. Vous allez pouvoir faire seulement ce que vous aimez faire. Et je crois que les amis, se consacrer 100% à sa passion sans faire de commercial, c'est, je pense, le but ultime de tout freelance. Alors, la liste d'attente est ouverte, vous pouvez déjà vous inscrire, je vous invite à le faire, je vous mets le lien en bas de ce podcast. Voilà, vous allez pouvoir cliquer sur le lien, vous allez rejoindre la liste d'attente. Je pense l'avoir fini dans quelques semaines, je suis en train de l'alimenter, j'ai rajouté beaucoup de contenu, j'avais fait une première version, finalement je l'ai beaucoup enrichi, je l'ai peut-être densifié du double de contenu, j'ai pris du temps pendant les vacances, j'ai pris du temps pour ça, donc je suis en train de bien la développer, donc rejoignez la liste d'attente dès maintenant. Il y aura une fenêtre d'ouverture pour cette formation qui va être assez courte. Surtout la première fois, je vais la restreindre à quelques utilisateurs hein, pour avoir un cercle assez fermé, pour pouvoir échanger avec vous, pour avoir vos retours, pour que vous puissiez me dire ce que vous pensez de la formation, etc. Ça me permettra de bien la finaliser. Alors je vous mets le lien en bas, cliquez hein, si vous êtes intéressé, cliquez, vous rejoignez la liste d'attente et puis ensuite, dès qu'elle est prête, je vous envoie un lien et vous pourrez faire partie du premier cercle des utilisateurs testeurs un petit peu, qui auront tous les avantages du début d'une formation. C'est pas que vous aurez une version brouillon, vous aurez la version définitive, mais vous pourrez apporter votre touche et vous pourrez faire vos conseils et me faire des retours, on pourra échanger de façon assez proche, vous et moi. Alors voilà les amis, je vous ai dit plein de choses avec ces 10 façons de trouver des clients en freelance. Partagez avec moi sur les réseaux sociaux, interpellez-moi, @empreintedigital. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez peut-être trouvé de nouvelles affaires grâce à ces conseils? Est-ce que c'est des conseils que vous allez mettre en pratique? N'hésite pas, venez me le dire, ça me fera toujours plaisir. C'est vrai que le podcast, c'est un petit peu, on parle dans un micro, il n'y a pas forcément de retour audio derrière. Alors quand il y a un retour écrit, on l'apprécie toujours sur les réseaux sociaux notamment. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez aller aussi sur Apple Podcasts et laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous citer pour vous remercier. Merci à tous et à très vite pour le prochain podcast. Ciao, ciao !